Maintenant, bon pied, bon œil, on part au cinéma avec Charlotte Perry.
Au cinéma de Cesson-Sévigné, dans la banlieue de Rennes. C'est en plein cœur de la Bretagne agro-industrielle. Et on va aller rencontrer Pierre Pézra, le réalisateur du documentaire Les Sentinelles. Un film qui retrace la lutte des ouvriers de l'amiante et celle des travailleurs agricoles intoxiqués aux pesticides. Et à l'heure où le parquet a requis un non-lieu dans le dossier de l'amiante et où l'Union européenne tergiverse sur l'interdiction du glyphosate, dont le sort d'ailleurs doit être examiné lundi en comité d'appel, un herbicide pourtant classé cancérigène probable par l'OMS en 2015, eh bien le combat judiciaire de ces lanceurs d'alerte contre l'impunité des industriels prend tout son sens.
Les crimes industriels commis à l'aide de cancérogènes sont des crimes parfaits.
Allez vous installer où vous voulez, j'éclaire un peu plus.
On peut se mettre là, non mais là c'est pas terrible.
Très bien.
Comment dans combien de temps le film?
Dans presque 2 heures. Donc c'est bien, on va pouvoir attendre en discutant.
On est donc dans la salle. Du cinéma à Cesson-Sévigné, dans la banlieue de Rennes. La salle est entièrement vide. Et que nous, en attendant que le film soit projeté tout à l'heure, 20h30. Je peux vous demander de vous présenter.
Je m'appelle Pierre Pézra. Je suis le fils d'Henri Pézra, qui est un personnage central du film que j'ai réalisé. Et qui était un scientifique qui a aidé les victimes de l'amiante et des pesticides à se défendre. Et quoi d'autre, j'ai passé ma carrière globalement à la télévision, dans laquelle j'ai fait à peu près tous les métiers. Et puis sur la fin de ma carrière, je suis même devenu responsable de service. On m'appelait chef des fois. voilà, et puis c'est mon premier film.
Qui s'appelle Les Sentinelles, et qui fait le lien en fait entre le combat des victimes de l'amiante et celle des pesticides. Tous vos personnages sont malades, ils ont été intoxiqués par les produits, même si on ne voit pas vraiment, parce que le film est quand même plus axé sur le combat pour la justice que sur la souffrance et la maladie. Mais ils sont tous touchés, ils dénoncent tous ces scandales sanitaires, et ça en sens qu'ils sont des sentinelles en fait. Comment est-ce que ça vous est venu l'idée de faire le rapprochement entre les victimes de l'amiante et les victimes des pesticides, donc l'idée de faire ce film en fait?
Bien après le décès de mon père, en 2009, s'est créée une association qui porte son nom, l'association Henri Pézra. Et à la première assemblée générale de cette association, j'ai rencontré Josette Rouder, qui est une ouvrière d'Amisol, et puis Jean-Marie Birbès, qui sont des personnes qui m'ont fortement impressionné.
Donc Josette Rouder, elle est déléguée syndicale CGT à Amisol Clermont-Ferrand, et Jean-Marie Birbès, il est délégué syndical CGT à Eternit, donc dans une usine dans le Tarn.
Et puis il y a eu aussi Paul François, que j'ai rencontré un petit peu plus tard, qui lui avait rencontré mon père et qui l'a aidé à faire reconnaître son intoxication en maladie professionnelle, puis plus tard qui lui a suggéré l'idée d'attaquer Monsanto. Et donc Paul François est arrivé à l'association Henri Pézra, et donc il dit dans le film d'ailleurs, il est arrivé au milieu d'une assemblée où il y avait beaucoup de gens de gauche, de CGT, il dit « on cassait du patron », alors que lui-même était un petit patron, puis il avait 2 salariés.
Il est agriculteur, exploitant agricole.
Et qu'il est agriculteur, bien entendu. Et là, je m'aperçois finalement que j'ai des points communs avec vous, parce que, au nom du profit, finalement, on a subi la même intoxication et on est dans le même bateau, en quelque sorte. Mais j'ai trouvé que de dire ça au milieu de cette assemblée, c'était quelque chose qui montrait qu'il avait beaucoup de courage, quoi. Et j'ai finalement terminé le film avec cette histoire des ouvriers de la coopérative Triscalia qui se sont fait empoisonner et qui me permettait d'avoir 2 personnages principaux dans l'amiante et 2 personnages principaux dans les pesticides.
La seule différence avec les ouvriers de Triscalia, c'est qu'eux n'ont jamais rencontré votre père.
C'est ça. Mais là, vous avez parlé du titre du film, Les Sentinelles. Mon père avait évoqué ce titre dans une interview à France Culture en l'an 2000. Ce qu'il disait, c'était que les ouvriers en milieu de travail étaient les sentinelles du milieu environnemental, Ce qu'il voulait dire, c'était que c'était eux qui prenaient les premiers empoisonnements, les premières intoxications, mais que derrière eux, en fait, c'était la société civile qui finalement allait subir ces mêmes empoisonnements.
Les ouvriers en milieu de travail sont en fait, au niveau des risques, des sentinelles du milieu environnemental.
Alors, à l'époque, le terme de lanceur d'alerte n'était pas aussi à la mode ou aussi employé. Mais sentinelle, lanceur d'alerte, c'est pareil. Et donc, les ouvriers triskalia, pour en revenir à eux, sont totalement symboliques de ceux auxquels pensait mon père quand il disait qu'ils sont des sentinelles. Parce que derrière l'intoxication des ouvriers triskalia, il y a l'intoxication des céréales, puis des cochons qui vont manger ces aliments à base de ces céréales pourries par les pesticides, puis des consommateurs qui vont manger ces cochons. Il y avait des cochons qui ont mangé un peu trop de ces céréales, ils en sont morts, mais il y en a qui en sont pas morts. Ils étaient juste malades. Et malgré tout, on en a fait de la viande, du jambon, et puis des côtes de porc, que les consommateurs ont mangé.
L'histoire de l'intoxication des salariés de la coopérative bretonne de Nutréa Triskalia commence à la fin de l'été 2008.
Ce qui s'est passé dans cette coopérative, c'est que la direction a coupé les ventilos qu'on voit de derrière la benne bleue là-bas. Un ventilo qui souffle l'air frais dans les céréales pour éviter qu'elles chauffent. Et la coopérative, pour faire des économies, a décidé de couper ces ventilos. Et les céréales ont commencé à fermenter, à chauffer. Il y a eu une prolifération d'insectes et au bout de quelques mois, tout s'est pris en masse et les 120 000 tonnes de céréales sont devenues complètement pourries et charançonnées. Il y avait des cratères à certains endroits, c'est parce que les céréales avaient fondu, c'était du jus qui coulait, c'était en putréfaction totale. Dès qu'on a eu un doute, on a averti la direction. Ils n'ont pas bougé. Au final, quand ils ont voulu extraire ces céréales, c'était encore pire qu'on pensait. Et du coup, ils ont traité ces céréales avec des produits qui étaient, depuis une quinzaine d'années, entreposés en dessous les fêtières là-bas. Depuis 2000 ans, ils étaient interdits à la vente et depuis 2007, interdits d'utilisation. Et on était en 2009 quand ils ont utilisé ces produits.
C'est bon, des fois, ça allait dans les yeux, beau protéger les yeux. Ça, la poussière allait dans les yeux, dans le nez, partout quoi.
Malgré le procès-verbal d'un inspecteur du travail constatant l'utilisation d'un pesticide interdit, la production et la livraison d'aliments pour bétail ne cessent pas. Aucun service de l'État ne contrôle ni le stock de céréales, ni la marchandise livrée aux éleveurs.
Alors pour dire un mot sur votre père, pour ceux qui ne seraient pas familiers, donc c'est Henri Pézra, c'était un chercheur toxicologue au CNRS et qui, dès les années 70, a alerté sur les dangers de l'amiante.
Oui, c'est ça, mais il faut dire qu'il travaillait à Jussieu, qui était floqué à l'amiante. Donc le flocage, c'est la projection d'amiante, de fibres d'amiante sur les murs, pour ses propriétés anti-incendie. Et donc, cette découverte d'amiante qui tombait du plafond ou des murs sur les plans de travail des chercheurs, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui tombe? Et mon père, parmi d'autres, s'est très rapidement compte que c'était de l'amiante. Et du coup, il a mis son nez dans la littérature qui existait déjà, puisqu'il y avait eu des études qui avaient été faites. Le premier rapport sur l'amiante, c'est 1906. D'un inspecteur du travail en Normandie. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un très grave danger à être simplement là, à Jussieu, couvert d'amiante. Et donc, à partir de là, il a décidé d'orienter ses recherches, les recherches de son laboratoire, sur les mécanismes de toxicité de l'amiante. Et il a voulu aller à la rencontre des travailleurs de l'amiante, parce qu'il a pensé que, eux étant à Jussieu intoxiqués, ils devaient l'être bien moins que ceux qui travaillaient à l'amiante. Et c'est comme ça qu'il est allé à Clermont-Ferrand, où il a rencontré Josette Rouder et bien d'autres, qu'il est allé à Condé-sur-Noireau, dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, où il y avait l'usine Ferrodo, où il y a je ne sais pas combien de victimes de l'amiante, c'est une hécatombe là-bas, et qu'il a, d'une certaine façon, transformé ses convictions politiques, son combat politique, qui était un combat de gauche, en mettant ses capacités, ses connaissances scientifiques au service des travailleurs qu'il voulait d'abord défendre. Quelle est la valeur de la santé d'un travailleur? C'est quelque chose qui est éminemment politique. Et il s'était heurté à des syndicalistes qu'il avait quasiment virés du site parce que il lui disait mais arrêtez, vous allez faire fermer la mine si vous continuez. Si vous continuez à nous raconter ce que vous dites, eh bien nous allons perdre notre emploi. Donc il est hors de question que vous continuez. Il s'était fait virer. C'était quand même extrêmement difficile. Il se retrouvait évidemment face au patron de l'usine qui empoisonnait les ouvriers. Il se retrouvait aussi face aux ouvriers qui ne voulaient pas perdre leur emploi. Donc c'est pour ça que quand on déroule ce qu'il y a derrière la maladie professionnelle et le chantage à l'emploi qui est pratiqué par les employeurs, mais aussi le propre déni de ceux qui se font empoisonner parce qu'ils savent qu'en arrière-plan, il y a la perte de l'emploi. L'emploi, d'ailleurs, étant le mot magique qui permet à tout le monde de faire n'importe quoi. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut choisir entre l'emploi et la santé, il faut un emploi avec la santé. Josette dit, et c'est pas dans le film, nous on avait les emplois, mais le cercueil qui va avec. Je trouve que c'est assez bien résumé la façon dont ça se passait et dont aujourd'hui en France, ça continue à se passer, par exemple à l'usine Triskalia en Bretagne, mais aussi dans bien d'autres endroits.
Il y a quand même quelque chose qui est commun, c'est qu'à un moment donné, il y a des industriels qui, au nom du profit, sont capables de mettre la vie de personnes en danger. On fait du profit, et au nom de ce profit, que ce soit agriculteur, docker, vous, salarié dans l'amiante, au nom de ce profit, on est capable de tuer.
Oh, moi, bon Dieu, mon collègue, mon ami, mon Kempego, m'a dit qu'être un des Mounessiens, m'a pas dit, va te mal feignant. Voici la cause d'une usine, un péril d'esprit 40 ans. Le patron m'y faisait la mine, des yeux et m'y pitchou en pain. Malgré qu'à Gessidji des pauvres, on travaillera pas content, on travaillera pas content.
Et alors, pour en venir donc au combat sur l'amiante, il a été en partie gagné, puisque l'amiante a été interdite en 1997. Dans les années 2000, il y a eu un fonds d'indemnisation qui a été créé pour les victimes. Et pourtant, c'est pas ça l'âme du combat. Il faut que les victimes soient indemnisées, évidemment, mais c'est pas ça l'âme du combat.
Ben, l'âme du combat, c'est qu'il faut arrêter d'empoisonner les ouvriers, pour citer Josette qui dit ça dans le film. Et arrêter d'empoisonner les ouvriers, c'est pas seulement pour l'amiante. Aujourd'hui, les victimes de l'amiante attendent toujours un procès au pénal. Elles n'attendent pas le procès au pénal pour voir les industriels qui les ont empoisonnés, qui ont aujourd'hui 80, 85 ans, etc., finir leur jour en prison. C'est pas ça. Elles attendent ce procès pour que soit donné le signal qu'on ne peut pas empoisonner les ouvriers, les paysans, les travailleurs d'une façon générale, de façon totalement impunie. Il faut faire cesser l'impunité de ces crimes industriels, parce qu'on parle bien de crimes industriels. Et dans le cas de l'amiante, cette volonté de réprimer n'a pas été exprimée, et donc, en quelque sorte, ceux qui font travailler les gens en les exposant, eh bien, ils peuvent continuer en toute impunité, puisque cet interdit d'empoisonner les gens n'a pas été exprimé par le droit pénal.
Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'amiante, c'est à peu près 100 000 morts. Il y a une étude de l'Institut national de veille sanitaire qui dit que d'ici à 2050, ce sera encore 100 000 morts à peu près. Et pour ça, il n'y a pas de responsable.
Donc c'est en quelque sorte terrible. Et ça veut dire, par exemple, sur l'affaire Eternite. Il n'est pas question de dire c'est telle personne en telle année qui était responsable de telle usine qu'il faut envoyer au tribunal. Je veux dire, tous les responsables des usines dans la période à partir du décret, on va dire 77 jusqu'à 97, pendant 20 ans, tous les responsables des usines Eternite doivent être mis en examen et passer au pénal. Ça ne veut pas dire qu'on va les envoyer en prison. Ça veut dire qu'ils doivent répondre de leurs actes. La confrontation doit avoir lieu et les victimes de l'amiante doivent pouvoir les entendre. Et ça donnerait peut-être un signal d'avertissement pour tous les empoisonnements qui existent aujourd'hui, Il y a des cas d'empoisonnement et de maladies qui se déclarent partout en France. Il faut arriver à ce que les crimes industriels cessent. Et pour arriver à ce que les crimes industriels cessent, il faut qu'il y en ait qui soient punis. Et s'ils ne sont pas punis et qu'ils ne s'expliquent pas, eh ben ça pourrait continuer.
64.
64, c'est quoi ?
Le nombre de 70.
C'est bien ?
C'est dans la moyenne.
Oh là là. Ah, des retardataires.
Un quart.
60 combien maintenant ?
69.
Bonsoir.
Bonsoir.
On est deux.
C'est parfait, merci bien. Voilà votre ticket. Merci. Bonsoir. 5, c'est parfait, je vous remercie. Voilà votre ticket. C'est parfait, bah, je vous remercie. Non, mais c'est bon, c'est bon. Voilà pour vous.
Merci.
Bon film.
Alors, comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
Ouais, impeccable.
Tiens,
voilà, bon film.
Alors, je ne vous ai pas demandé de vous présenter encore.
Alors, moi, je m'appelle Serge Lequeau et donc je suis militant syndical à l'Union syndicale solidaire de Bretagne. Et je suis le défenseur des salariés de l'entreprise Nutriatrice Calia qui ont été gravement intoxiqués par des pesticides donc en 2009 et 2010. Ils ont fait en sorte que finalement il y ait une prise de conscience collective, si on veut, des problèmes de santé publique que posait l'utilisation de pesticides. Quelque part, par leur engagement, par la médiatisation de leur combat, ils sont devenus des lanceurs d'alerte.
Eux, les ouvriers de Triskelia, donc ils ont été victimes d'une maladie qui était peu connue à l'époque.
Ils sont atteints d'hypersensibilité aux produits chimiques multiples. Et donc, ils ont été intoxiqués par une molécule qui s'appelle le dichlorvos, un insecticide extrêmement puissant, qui a été d'ailleurs utilisé dans les camps de concentration pour gazer les gens. Une fois qu'on est intoxiqué par cette molécule-là, c'est une intoxication irréversible, parce que la molécule migre du sang dans la moelle épinière et ensuite se loge dans le cerveau. On ne peut pas s'en débarrasser, donc ils seront malades à vie. Et aujourd'hui, donc, ils sont dans la capacité de travailler parce que dès qu'ils sont mis en contact avec des produits chimiques, ils ont des réactions extrêmement violentes, des saignements de nez, des douleurs abdominales, des douleurs musculaires. Ils ne peuvent plus travailler.
Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Pierre Pesra, qui est donc le réalisateur du film que vous avez vu tout à l'heure. Et pour vous mettre en ambiance, j'ai mis à gauche une affiche là, qui va vous inciter à acheter des produits dont la marque est notée en dessous. Hein. N'oubliez pas.
Bonsoir. Merci d'être là et puis je suis très ravi que vous soyez nombreux. C'est pas tout le temps le cas et donc la Bretagne fait honneur à sa réputation et ça fait plaisir. Je serai amené à répondre à vos questions tout à l'heure avec Jean-François Delhomme qui est là-bas, qui est médecin, et Serge Lequeau qui est là-bas et qui est membre de Solidaire et qui a aidé les ouvriers de la coopérative de Triskelia à se bagarrer contre leur employeur. Et la coopérative de Triskelia, l'histoire de cette coopérative, en tout cas de cet empoisonnement, est évoquée à la fin du film. Et je vous souhaite une bonne projection.
On n'a pas d'autre choix que de se battre. C'est de toute manière, c'est un combat qui doit être mené. On n'a plus le droit de baisser les bras pour ce qui arrive après nous. Mais c'est pas normal qu'on est en train d'empoisonner l'humanité et tous ces salauds.
L'attitude des firmes vis-à-vis des gens malades est tellement scandaleuse. Ils savent très bien que c'est les produits qu'ils nous ont donnés pouvaient conduire à des situations catastrophiques et voire à la mort. Mais leur attitude maintenant, ils n'ont aucun regret, ils ont rien, ils s'en fichent, mérite un procès. Et ça mérite le combat qu'on mène.
Et c'est donc lundi que le sort du glyphosate, le puissant herbicide de Monsanto, doit être examiné par l'Union européenne. Et oh, surprise, il y a quelques jours à peine, une étude n'établissant aucun lien entre ce produit et le développement de pathologies cancéreuses est soudainement réapparue. Cela s'appelle la stratégie du doute et c'est une vieille technique des industriels pour instiller le doute justement dans les esprits. Tout ça est très bien expliqué aussi dans le documentaire de Pierre Pesra.